Chapitre 17. T'as eu ce que tu voulais ? Demanda le construct. Le Kuang, expert type 11, remplissait la grille le séparant de la glace TA avec l'arc-en-ciel d'un réseau d'une complexité hypnotique, un treillis fin comme cristaux de neige sur une fenêtre en hiver. Muet d'hiver a tué Armitage, l'a éjecté dans une chaloupe avec le sas ouvert. Dur, commenta Tréplat. Mais étiez pas exactement copains comme cochons, vous deux ? Certes, mais il connaissait la formule pour me libérer de mes sachets de toxines. Alors Muet d'hiver doit la savoir aussi, compte là-dessus. Je ne me fie pas précisément à Muet d'hiver pour me la donner. Le rire, hideusement approximatif du construct, racla les nerfs de caisse comme une lame émoussée. Peut-être que ça signifie que tu prends du plomb dans la tête. Il bascula l'inter du Simstim. 06-27-52, d'après la puce de son air optique. Kez avait suivi sa progression à travers la villa lumiérante depuis plus d'une heure, laissant l'endorphine de synthèse éponger sa propre cuite. La douleur de sa jambe était partie. Elle semblait se mouvoir dans les eaux d'un bain chaud. Le robot Braun était perché sur son épaule. Ses minuscules manipulateurs, comme des pinces hémostatiques à tampons, bien arrimés dans le polycarbonate de son collant de moderne. Les cloisons dans ce secteur étaient d'acier brut, zébrés de grossiers filaments d'époxy marron, aux endroits où l'on avait sans doute arraché quelques pièces de revêtement. Elle s'était planquée hors de vue d'une équipe d'ouvriers, accroupis, le flécheur niché dans les mains, le collant gris-acier, tandis que deux Africains minces passaient avec leur chariot à pneus ballons. Les hommes avaient le crâne rasé et portaient des survêtements orange. L'un d'eux fredonnait doucement pour lui-même dans une langue que Kez n'avait jamais entendue, avec une mélodie et des accents étranges et obsédants. Le discours de la tête, la dissertation de trois gènes sur lumiérante, lui revinrent, tandis que Molly s'enfonçait toujours plus loin dans le dédale des lieux. Lumiérante était un endroit fou, une folie matérialisée dans cette résine de béton qu'ils avaient malaxée, à partir de pierres de lune pulvérisées. Une folie coulée dans l'acier et incarnée par des tonnes de babioles, tout le bric-à-brac bizarre qu'ils avaient fait monter en haut du puits pour meubler le nid tournant. Mais ce n'était pas une folie qu'ils comprenaient. Elle n'était en rien comparable à la démence d'Armitage, qu'ils pensaient être à présent en mesure de comprendre. Tordez un homme suffisamment loin, puis tordez-le d'autant dans l'autre direction, et recommencez encore. L'homme se brisait, comme un morceau de fil. Et c'est là ce que l'histoire avait fait subir au colonel Courtois. L'histoire avait déjà accompli le plus sale boulot lorsque Muet d'hiver l'avait trouvé, arraché à point nommé des débris pourrissants de la guerre, pour venir se glisser dans les étendues lisses et grises du champ de conscience de l'homme, comme une araignée d'eau traverse la surface de quelques mares stagnantes. Premier message clignotant sur l'écran d'un micro de gosse dans la chambre obscure d'un asile en France. Muet d'hiver avait bâti Armitage en partant de zéro, en se fondant sur les souvenirs qu'avait gardé Courtois de l'opération Point Hurlant. Mais les souvenirs d'Armitage n'auraient pu être ceux de Courtois au-delà d'un certain point. Kez doutait qu'Armitage ait gardé souvenance de la trahison, de la chute en vrille, des Night Wings en flammes. Armitage avait été une manière de version abrégée de Courtois, et lorsque le stress de la passe avait atteint un certain point, le mécanisme Armitage s'était pulvérisé. Courtois avait alors refait surface, avec sa culpabilité et sa fureur maladive. Et maintenant, Courtois Armitage était mort, petite lune gelée, satellite de zone libre. Il songea au sachet de toxines. Le vieil H-Pool était mort lui aussi, l'œil transpercé par le trait microscopique de Molly, privé de la surdose qu'il s'était concoctée en expert. Voilà qui constituait une mort plus intrigante, celle-là, la mort d'un roi fou. Et il avait tué la marionnette qu'il avait appelée sa fille, celle qui avait le visage de trois gènes. Kez avait l'impression, tandis que, via les perceptions sensorielles de Molly, il parcourait les corridors de Lumirante, de n'avoir jamais vraiment considéré comme tout à fait humain un personnage comme H-Pool, un être qu'il s'imaginait avoir été jadis doté d'un tel pouvoir. Le pouvoir dans l'univers de Keyes était synonyme de pouvoir des sociétés. Les Aibatsu, les multinationales, qui modelaient le cours de l'histoire humaine, avaient transcendé les vieilles barrières. Vus comme des organismes, ils étaient parvenus à une sorte d'immortalité. Vous ne pouviez pas tuer un Zaibatsu rien qu'en assassinant une douzaine de cadres clés. Il y en avait d'autres qui attendaient, prêts à grimper les échelons, assumer la place laissée vacante, accéder aux vastes banques de données de la firme. Mais la Tessier Ashpool n'était pas comme ça, et il sentait la différence dans la mort de son fondateur. La TA était un atavisme, un clan. Il se rappela les ordures entassées dans la chambre du vieillard, l'humanité crasseuse de ses débris, les squelettes déchiquetés des vieux disques audio dans leurs pochettes de papier, un pied nu et l'autre dans une pantoufle de velours. Le Braun tira sur la capuche de la combinaison de Moderne et Molly tourna à gauche, sous un autre passage couvert. Muet d'hiver et le nid, vision phobique des guêpes naissantes, mitraillettes biologiques décomposées au ralenti. Mais les Aibatsu n'étaient-ils pas les plus semblables à cela? Les Aibatsu ou le Yakuza, des ruches aux mémoires cybernétiques, vastes organismes uniques à l'ADN collé dans le silicone? Si Lumiran constituait une expression de l'identité sociale de la Tessier Ashpool, alors la Théa était aussi démente que l'avait été le vieux. Le même entrelac déchiqueté de terreur, la même bizarre impression d'absence de but. S'ils avaient pu devenir ce qu'ils avaient voulu, les paroles de Molly lui revinrent en mémoire. Mais Medivert lui avait affirmé qu'il n'y était pas parvenu. Keyes avait toujours considéré comme allant de soi que les vrais patrons, les chevilles ouvrières d'une industrie donnée, devaient être à la fois supérieurs et inférieurs aux gens ordinaires. Cela, il avait pu le constater chez les hommes qui l'avaient mutilé à Memphis. Il avait vu Gedge en assumer toutes les apparences dans la Cité de la Nuit. Et c'était cette même idée qui lui avait permis d'accepter l'aspect lisse et dépourvu de sentiments d'Armitage. Il l'avait toujours imaginé comme la preuve d'une adaptation progressive, graduelle et volontaire à la machine, au système, à l'organisme parent. C'était la base également de ce sang-froid qu'il convenait d'arborer dans la rue, cet air fin qui sous-entendait des connexions, des liens invisibles avec des sphères d'influence secrètes et haut placées. Mais que se passait-il donc à présent dans les corridors de la villa lumiérante? Des longueurs entières de couloirs avaient été déshabillées de leurs revêtements, révélant à nouveau le béton et l'acier. Me demande bien où est passé notre Peter à présent, hein? Je vais peut-être pas tarder à voir ce garçon, marmonna-t-elle. Et Armitage, où est-il, Keyes? Mort, dit-il, tout en sachant qu'elle ne pouvait l'entendre. Il est mort. Il cliqua. Le programme chinois était face à face avec la glace de son objectif, couleur arc-en-ciel progressivement dominée par le vert du rectangle, représentant les tores de la mémoire de masse TA, arche d'émeraude, au-dessus d'un vide incolore. « Comment ça se passe, Dixie ?»« Impec, trop bien même, drôle de truc. Si j'avais eu le même, l'autre coup, à Singapour. C'est que j'avais éclusé cette bonne vieille banque nouvelle pour l'Asie d'un bon cinquième de sa valeur. » Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Ce bébé-là te délivre de toutes les corvées. À se demander à quoi pourrait ressembler une vraie guerre aujourd'hui. Si ce genre de babiole courait les rues, on serait sur la paille, remarqua Keyes. Tu l'as dit, mais attends d'avoir fait grimper le bidule à travers la glace noire. Dac, quelque chose de tout petit et de définitivement non géométrique venait d'apparaître tout au bout des arcades d'émeraude. Dixie? « Ouais, je l'ai vu. C'est pas si je peux y croire. » Un point brunâtre, moucheron terne contre la paroi verte des mémoires de Mastéa. Il se mit à progresser, traversant le pont édifié par le Kuang expert type 11, et Keyes vit que la chose marchait. À son approche, la section verte de l'arcade s'agrandissait. La polychromie du programme virus se rétractait, s'enroulant à quelques pas devant les chaussures noires craquelées. « Mieux vaut que je te repasse le bébé, » dit le très plat, lorsqu'enfin la silhouette trapue et fripée du finnois parut se dresser à quelques mètres d'eux. « Jamais vu de truc si drôle de mon vivant. » Mais cette fois, le non-rire sinistre ne se fit pas entendre. J'avais encore jamais essayé, dit le Finnois, en montrant les dents, les mains enfoncées dans les poches de son blouson usé. Tu as tué Armitage, dit Case.
Corto, ouais.
Armitage avait déjà disparu.
Ouais, fallait bien, je sais.
Je sais. Tu veux connaître le nom de l'enzyme?
D'accord, pas de problème.
D'abord, c'est moi qui l'ai refilé à Armitage.
Je veux dire, qui lui a indiqué quoi utiliser.
Mais je pense qu'il vaudrait peut-être mieux laisser encore courir le marché.
T'as assez de temps. Je te la donnerai.
Plus qu'une heure ou deux, Dak?
Case regarda la fumée bleue tourbillonner dans le cyberspace lorsque le Finnois alluma l'un de ses partagas.
Les mecs, reprit ce dernier, vous êtes vraiment chiants. Tiens, le trait plat, là. Eh bien, si vous étiez tous comme lui.
Ce serait franchement plus simple.
C'est un construct, rien qu'un paquet de mémoire morte.
Alors, il fait toujours ce que j'attends de lui.
Tandis que vous, tiens, rien que pour te donner un exemple, eh bien mes projections disaient qu'il y avait peu de chances que Molly vienne se pointer durant la grande scène de sortie d'Ashpool.
Il soupira.
Pourquoi fallait-il qu'il se suicide ? Demanda Case.
Pourquoi quiconque se suicide-t-il ?
La silhouette haussa les épaules.
Je suppose que si quelqu'un le sait, c'est moi.
Mais il me faudrait 12 heures pour expliquer les divers facteurs intervenant dans son histoire personnelle et leurs interrelations. Il était prêt à le faire depuis un bout de temps.
Mais il n'arrêtait pas de retourner au congélateur.
Bon Dieu, quel vieil emmerdeur !
Le visage du Finnois se plissa de dégoût.
C'était essentiellement lié aux raisons pour lesquelles il avait tué sa femme, si tu veux savoir, en bref.
Mais ce qui l'a fait basculer pour de bon, c'est que la petite 3 Jane avait trouvé un moyen de bidouiller le programme qui contrôlait le système cryogénique.
Subtil, ça aussi.
Si bien que dans le fond, c'est elle qui l'a tué.
Excepté que lui a cru jusqu'au bout qu'il se suicidait, et que ton ami, l'ange de vengeance, est convaincu de l'avoir eu avec une giclée de jus de coquillage dans l'œil. Le Finnois jeta d'une pichenette son mégot dans la matrice.
Enfin, à vrai dire, je suppose que j'ai dû donner à 3 Jane l'une ou l'autre direction, un peu de ce bon vieux savoir-faire, si tu vois ce que je veux dire.
Mais divers, dit Case, en choisissant ses mots avec soin. Tu m'as expliqué que tu faisais simplement partie d'un tout plus grand. Plus tard, tu m'as dit que tu n'existerais plus si la passe se déroulait et que Molly parvenait à glisser le mot adéquat dans la fente convenable.
Le crâne profilé du Finnois s'inclina en signe d'acquiescement.
D'accord. Alors, avec qui allons-nous discuter dans ce cas?
Si Armitage est mort, et si toi tu es sur le point de disparaître, qui donc au juste va me dire comment débarrasser mon organisme de ces putains de sachets de toxines?
Qui va tirer Molly de ce guépier?
Je veux dire, où
exactement allons-nous donc échouer lorsqu'on t'aura coupé de ta logique câblée?
Le Finnois sortit de sa poche un cure-dent en bois et l'examina d'un œil critique, comme un chirurgien vérifie un scalpel.
« Bonne question, dit-il enfin. Tu connais le saumon, cette espèce de poisson?
Eh bien, ces poissons, vois-tu, ils ne peuvent pas faire autrement que remonter le courant.
Tu piges?
Non.
Eh bien, je ne peux pas faire autrement moi-même. Et j'ignore pourquoi.
Si je devais te soumettre mes pensées personnelles, appelons-les mes spéculations sur le sujet, cela exigerait la durée de 2 de vos existences. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à la question. Et je ne sais vraiment pas. Mais quand tout cela sera terminé, et si nous l'accomplissons correctement, je deviendrai partie intégrante de quelque chose de plus grand.
Bien plus grand, répéta le Finnois, en examinant autour de lui la matrice.
Mais les parties de moi-même qui sont en moi en ce moment même seront toujours présentes, et tu auras ta récompense.
Case réprima une envie folle de se jeter en avant pour saisir la créature à la gorge, juste au-dessus du nœud effiloché de son foulard crasseux. Lui enfouir les pouces dans le larynx.
« Eh bien, bonne chance, » dit le Finnois.
Il pivota, main dans les poches, et se mit à remonter à pas lents l'arcade verte.
« Eh, du con !» lança le très plat alors que le Finnois avait accompli une 12aine de pas.
La silhouette s'arrêta, se tourna à demi.
« Et moi alors, et ma récompense à moi ?» demanda le construct.
« Tu l'auras, toi aussi. »
Ce qui veut dire, demanda Kez en regardant s'éloigner la silhouette étroite vêtue de tweed.
« Je veux être effacé, dit le construct. Je te l'ai dit, tu te souviens. »
Lumiérante rappelait à Kez les centres commerciaux déserts au petit matin qu'il avait connus adolescent. Ces espaces, à faible densité, où les petites heures du jour apportaient un calme capricieux, une manière d'attendre sourde, une tension à vous laisser en contemplation devant les insectes grouillants autour des lampes grillagées au-dessus de l'entrée des boutiques obscures. Lieux marginaux, situés jusqu'à la limite, en bordure de la conurbe, trop loin de l'agitation nocturne, de la trépidation de son cœur chauffé à blanc. Il régnait ici cette même impression d'être entouré par les habitants endormis d'un monde au seuil de l'éveil qu'il n'éprouvait aucun intérêt à visiter ou connaître. Cette impression de suspension temporaire d'une activité morne, de futilité et de répétition dont le réveil était imminent. Molly avait ralenti à présent, soit parce qu'elle se savait proche du but, soit parce que sa jambe l'inquiétait. La douleur commençait à se frayer de nouveau un chemin zigzagant à travers les endorphines, et il n'était pas certain de ce que cela pouvait signifier. Elle ne parlait pas, gardait les dents serrées et maîtrisait soigneusement sa respiration. Elle avait dépassé bien des choses, franchi bien des lieux que Kez n'avait pas compris, mais sa curiosité s'était envolée. Il y avait une pièce garnie de rayonnages de livres, un million de feuilles de papier plates et jaunissantes, pressées dans des reliures de cuir ou de tissu. Les rayons repérés à intervalles réguliers d'étiquettes, qui suivaient un code de chiffres et de lettres, une galerie encombrée, où Kez avait contemplé, à travers les yeux sans curiosité de Molly, un rectangle de verre étoilé, poussiéreux, un objet intitulé « Le regard de la fille » s'était machinalement porté sur la plaque de cuivre en dessous. La mariée mise à nu par ses célibataires mêmes. Elle avait tendu la main pour effleurer l'objet, cliquetis de ses ongles artificiels sur le sandwich de l'exan, protégeant le verre brisé. Il y avait eu ce qui était manifestement l'entrée du complexe cryogénique Tessier-Hachepoul, porte circulaire de verre noir bordée de chrome. Elle n'avait vu personne depuis les deux Africains avec leur chariot, et pour Kez, ils avaient fini par acquérir une sorte d'existence imaginaire. Ils se les figuraient glissant doucement à travers les salles de lumiérante, leurs crânes lisses reluisants, oscillants, tandis que le premier chantait toujours sa petite complainte lasse. Et rien de tout cela ne correspondait à la villa lumiérante telle qu'il l'avait imaginée. Une espèce de croisement entre le château de Comte de Fées de Cat et son vague souvenir d'enfance de l'image fantasmée du sanctuaire secret du Yakuza. 07-02-18, 1h30. « Qu'est-ce » dit-elle, « rends-moi un service. » Avec raideur, elle se baissa pour s'asseoir sur un empilement de plaques d'acier poli, la surface de chacune protégée par une pellicule irrégulière de plastique transparent. Elle agrandit la déchirure dans le revêtement de la plaque supérieure en y glissant les lames du pouce et de l'index. « La jambe, ça va pas, tu sais. Je m'imaginais pas à une pareille grimpette, et les endorphines vont pas tarder à ne plus faire effet. Alors peut-être, je dis bien peut-être, simplement, vu, que je vais avoir un problème. Bref, si jamais je claque ici avant Riviera, et elle étendit la jambe, tritura la chair de sa cuisse à travers le polycarbonate de Moderne et le cuir de Paris, eh bien, je veux que tu lui dises. Que tu lui dises que c'était moi, pigé? Dis-lui simplement que c'était Molly. Il comprendra? Ok. Elle contempla le corridor vide, les murs nus. Le sol était en béton lunaire, brut, et l'air sentait la résine. Eh merde, mec, je sais même pas si t'écoutes. Kez? Elle grimaça, se releva, hocha la tête. Qu'est-ce qu'il t'a raconté, mec? Me dit Vert. Il t'a parlé de Marie-France? Elle? C'était la moitié de Tessier, la mère génétique de trois gènes, et de cette marionnette d'Hachepoul, je suppose. J'arrive pas à piger pourquoi il a fallu qu'il me raconte tout ça, là-bas dans cette cabine. Tous ces trucs, et pourquoi il devait apparaître sous les traits du Finnois ou de n'importe qui, ce genre de machin. Ce n'est pas simplement un masque, c'est comme si les profils réels lui servaient de gabarit, pour lui permettre de communiquer avec nous. Il appelait ça un patron. Un modèle de personnalité. Elle sortit son flécheur et repartit en boitillant dans le couloir. L'acier nu, maculé de coupures d'époxy, s'interrompait brusquement, remplacé par ce que Kez prit d'abord pour un tunnel grossier taillé dans la roche à coups d'explosif. Molly en examina le bord et il vit que l'acier était en réalité revêtu de panneaux d'un matériau qui, à la vue comme au toucher, ressemblait à de la pierre. Elle s'agenouilla pour effleurer le sable sombre répandu sur le sol de cette imitation de tunnel. La matière avait la consistance du sable, frais et sec. Mais lorsqu'elle parcourut ce sable du doigt, il se referma derrière comme un fluide, laissant la surface intacte. Une douzaine de mètres plus avant, le tunnel s'incurvait. Une lumière jaune et crue découpait des ombres dures sur le plaquage de pseudo-roches des murs. Avec un sursaut, Kez se rendit compte que la gravité, ici, était proche de la normale terrestre, ce qui voulait dire que Molly avait dû redescendre après son ascension. Il était à présent totalement perdu. La désorientation spatiale revêtait une horreur particulière pour les cow-boys. « Mais elle n'était pas perdue, elle, » se dit-il. Quelque chose se glissa entre ses jambes et poursuivit sa marche en cliquetant sur le non-sable du sol. Une diode rouge clignota. Le Brown. Le premier des holos attendait juste, après le virage, une sorte de triptyque. Elle avait abaissé le flécheur avant que Kez ait eu le temps de se rendre compte qu'il s'agissait d'un simple enregistrement. Les silhouettes étaient des caricatures de lumière, des personnages de BD, grandeur nature. Molly, Armitage, Kez. Les seins de Molly étaient trop gros, visibles à travers la résille noire moulante sous le lourd blouson de cuir. Elle avait la taille impossiblement fine. Des lentilles d'argent lui couvraient la moitié du visage. Elle tenait dans la main une arme absurdement complexe. Un pistolet dont la forme disparaissait presque sous un amoncellement de viseurs télescopiques, silencieux et autres écrans par éclair. Elle se tenait les jambes écartées, le pelvis en avant, la bouche figée dans une grimace de cruauté niaise. À côté d'elle, Armitage se tenait raide au garde-à-vous, en uniforme kaki et limé. Comme Molly avançait avec précaution, Kez put voir que ses yeux étaient de minuscules écrans de contrôle, présentant chacun l'image gris-bleu d'une vaste étendue neigeuse, avec les troncs noirs et dénudés d'arbres à feuilles persistantes recourbés sous le vent silencieux. Elle passa le bout des doigts à travers les yeux téléviseurs d'Armitage, puis se tourna vers la silhouette de Kez. Ici, c'était comme si Riviera, car Kez avait su dès le début que Riviera en était le responsable, avait été incapable de trouver en lui la moindre prise à la parodie. La silhouette qui se tenait là, avachie, était une vague approximation de celle qu'il recevait lui-même tous les jours dans sa glace. Mince, la tête rentrée dans les épaules, un visage aisément oubliable sous des cheveux bruns coupés courts, il avait besoin d'un coup de rasoir, mais enfin, c'était souvent le cas. Molly recula d'un pas. Son regard passa d'un personnage à l'autre. C'était une exposition statique, le seul mouvement de la composition étant le frémissement silencieux des arbres noirs dans le froid sibérien des yeux d'Armitage. « On essaye de nous dire quelque chose, Peter ?» demanda-t-elle doucement. Puis elle avança d'un pas et donna un coup de pied dans quelque chose entre les pieds de la Molly holographiée. Il y eut un choc métallique contre le mur et les silhouettes disparurent. Elle se pencha pour ramasser un petit projecteur. « Je parie qu'il peut se brancher dessus et les programmer en direct, » dit-elle en jetant l'appareil au loin. Elle dépassa la source de lumière jaune. Un archaïque globe à incandescence encastré dans le mur, protégé par la courbe rouillée d'une grille en métal déployé. Le style de l'équipement improvisé suggérait quelque part l'enfance. Il se rappela les forteresses qu'avec d'autres gosses il bâtissait jadis sur les toits ou dans les caves inondées. Une planque pour gosses de riches, songea-t-il. Ce genre de simplicité brute était coûteuse, ce qu'on appelait l'atmosphère. Elle dépassa une douzaine d'autres hologrammes avant d'atteindre l'entrée des appartements de trois gènes. L'un d'eux dépeignait la chose aveugle dans la ruelle derrière le bazar aux épices, au moment où elle se libérait en déchirant le corps rompu de Riviera. Plusieurs autres représentaient des scènes de torture, les inquisiteurs étant toujours des officiers de l'armée et les victimes invariablement des jeunes femmes. Toutes ces scènes avaient l'effroyable intensité du spectacle présenté par Riviera au XXe siècle, comme si elles avaient été figées dans l'éclair bleu d'un orgasme. Molly avait à chaque fois détourné les yeux au passage. Le dernier hologramme était petit et terne, comme s'il s'était agi d'une image que Riviera avait dû faire remonter de quelque intime tréfonds du temps et de sa mémoire. Molly dut s'agenouiller pour l'examiner. Elle avait été projetée depuis le point de vue d'un petit enfant. Aucune des autres compositions n'avait eu d'arrière-plan. Personnages uniformes, instruments de torture, tous ces éléments avaient été suspendus dans le vide. Mais celle-ci, au contraire, présentait un paysage. Une vague sombre de décombres s'élevait devant un ciel décoloré, avec au-delà de sa crête les squelettes blanchis et à demi fondus de tours d'habitation. La vague de décombres avait la texture d'un filet, câble d'acier rouillé, tordu gracieusement comme de fins cordages, auxquels étaient encore arrimées de vastes plaques de béton. Le premier plan pouvait avoir constitué jadis une place. Il y avait une sorte d'excroissance, un moignon qui suggérait une fontaine. À sa base, les enfants et le soldat étaient figés. Le tableau était d'abord déroutant. Molly devait l'avoir déchiffré correctement avant que Case ne l'eût totalement assimilé, car il la sentit se raidir. Elle cracha puis se releva. Des enfants, sauvages en haillons, les dents brillantes comme des lames de couteau, des plaies sur leur visage déformé. Le soldat allongé sur le dos, bouche bée, la gorge béante au ciel, ils étaient en train de s'en repaître. « Bonne, » dit-elle avec quelque chose comme de la douceur dans la voix. « Tu es un sacré numéro, pas vrai, Peter ? Mais il fallait bien ça. Notre trois de gêne, elle est trop blasée pour ouvrir la porte de service à un vulgaire petit voleur. Alors, muet d'hiver est allé te déterrer. Le dernier cri en matière de goût, pour ceux qui sont portés là-dessus. L'amant démon, Peter. » Elle frissonna. « Mais tu l'as convaincu de me laisser entrer, merci. À présent, on va se fêter ça. » Et voilà qu'elle était repartie, et d'un pas nonchalant, même, malgré la douleur, loin des souvenirs d'enfance de Riviera. Elle sortit le flécheur de son étui, dégagea le chargeur en plastique qu'elle enfourna dans une poche pour le remplacer par un autre. Elle glissa le pouce dans le cou de son collant de moderne et l'ouvrit d'un seul geste jusqu'au pubis, la lame de l'ongle fondant le polycarbonate résistant comme de la soie moisie. Elle se libéra des bras et des jambes de la combinaison, dont les restes lacérés se camouflèrent eux-mêmes en tombant sur le faux sable sombre. C'est alors que Case remarqua la musique. Une musique inconnue de lui, tout en corps et piano. L'entrée du monde de Trois de Gênes n'avait pas de porte. C'était une ouverture déchiquetée, large de 5 mètres, creusée dans la paroi du tunnel, avec des marches inégales qui descendaient selon une large courbe en pente douce. Pâle lumière bleue, ombre mouvante, musique. « Case !» dit-elle avant de s'immobiliser, le flécheur dans la main droite. Puis elle éleva la gauche, sourit, caressa sa paume ouverte du bout d'une langue humide, l'embrassant via le lien du système. « Faut que j'y aille. » Puis elle se retrouva avec quelque chose de petit et de lourd dans la main gauche, le pouce plaqué contre une minuscule excroissance, et elle entama sa descente.